Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto. C'est sur Campus Lille 106,6 ou campuslille.com. Aujourd'hui, retour vers le passé au menu de cette émission. Le temps des pionniers derrière la plus grande aventure de l'histoire motocycliste des États-Unis se cache les destins de jeunes visionnaires ayant tout tenté à une époque où tout était possible. Deux marques mythiques, Harley-Davidson d'un côté et Indian de l'autre, les Cowboys de Milwaukee contre les Indiens de Springfield. Pour en parler aujourd'hui avec nous, nous avons dans les studios Alain Chêne. Alain, bonjour.
Bonjour.
Alors Alain Chêne pour Harley-Davidson.
Absolument,
pour les
oui.
Cowboys.
Oui, pour les Cowboys.
Et Anthony Dwins pour les Indiens.
Pour les Indiens, voilà. Bonjour la Miche.
Bonjour. Alors vous savez qu'à vous deux, vous représentez près de deux siècles d'histoire moto, hein.
Ah oui,
presque. Voilà. Voilà, Indian, il y a 50 ans. Hein. Mais par contre, Harley-Davidson, il n'y a pas eu de...
La
continuité de 1900 à maintenant. Hein.
1900 à maintenant, oui, tout à fait. Ouais.
Qu'est-ce que vous... Ça vous fait quelque chose, non?
Ah oh bah oui, côté mythique. Pas qu'à nous, ça reste.
Non, mais vous auriez pu vendre, je sais pas moi, des...
Des hamburgers.
ça aurait été moins... C'était moins...
Non, mais... Ouais, mais c'est moins fun.
C'est moins fun, et puis quand même...
Et puis il n'y a pas d'histoire.
Voilà, et puis il n'y a pas d'histoire. Donc, effectivement, hein, si on retourne, si aujourd'hui on parle de ces deux marques américaines, parce qu'en en fait, avant, il y avait d'autres marques aussi américaines. Hein, il y avait le Texior. Et c'est les deux seuls qui restent encore actuellement. Indian, ben, il y a eu un petit problème en 1953.
Voilà, oui, des erreurs de gestion, la Seconde Guerre mondiale qui ont fait.
Alors les deux guerres, enfin la Première Guerre mondiale, Indian s'en sort bien, au contraire, par rapport à Harley-Davidson. Par contre, la Seconde, là, il y a des grosses erreurs de gestion.
Ouais.
Et finalement, ça va faire disparaître la marque.
La marque, fin 1953.
Et là, on sort son mouchoir.
Et là, on sort son mouchoir, ouais, malheureusement. Mais pas pour longtemps.
Mais pas pour longtemps. Parce
pas pour longtemps, à l'échelle d'une marque, c'est pas énorme, 50 ans.
Voilà. Et puis, Harley-Davidson, il y a la continuité, hein, pratiquement, de 1900 à 2016.
Pratiquement, parce qu'il y a quand même eu...
De 1903.
Alors non, c'est pas 1903, parce que là, j'ai fait des recherches. Attention, c'est beaucoup plus compliqué que ça, quand même.
Enfin, voilà. Officiellement, c'est 1903.
Alors, officiellement. Et c'est même pas...
registre du commerce, c'est
1907. Et voilà.
Dans les registres du commerce américain.
Officiellement, elle est...
Harley-Davidson, c'est 1907.
Exactement.
Première vente de moto.
Exactement, la première vente, elle est inscrite.
Je pense.
Donc, avant, ils n'avaient pas le droit de vendre des motos, ou alors, c'était comme ça, c'était fait en loose day. Alain.
Oui, non, c'était pas fait en loose day. Enfin, je ne sais pas à l'époque ce que c'était. Bon, si ce n'est que la marque, quand même, il y a eu une période un peu plus compliquée au début des années 80, où finalement,
ça,
Harley,
c'était
un grand virage pour Harley.
D'accord.
Et c'est ce qui a permis aujourd'hui à la marque de garder son succès et de toujours être dans cette continuité de production.
Voilà, très bien. Donc, on a un vaste sujet. On en a moins pour facilement une heure. Hein. Alors, voilà. On va parler aussi des essais.
La Miche, je voudrais te couper 30 secondes. Je voudrais juste remettre à mon confrère et néanmoins concurrent une brochure de la marque Indian Victory 2016 ainsi qu'un petit porte-clés.
Bon, Anthony, voilà. Je l'ai déjà, la brochure. Je la connais bien. Mais le porte-clés, ça m'intéresse.
Voilà. Là.
Très bien.
Bon, bah, un grand merci.
Il n'y a pas de quoi.
Faites vos petites affaires. Là. Vous inquiétez pas. Hein. Faites comme si on n'était pas là. Bon, là, on va parler aussi des essais IRTA avec Nicolas Poiret. Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Les essais IRTA, ça sert à quoi
Les essais IRTA, en fait, la saison de Grand Prix va bientôt reprendre. Ça sera dans un mois, le 20 mars, au Qatar. Et avant, pour s'affûter, on a l'occasion d'avoir des séries d'essais. Donc, il y a eu des essais en Malaisie au début février, 1, 2, 3 février. À Sepang, et puis la semaine dernière à Phillip Island en Australie, ils se sont terminés vendredi, et donc il y a encore une série de deux sessions de prévues au Qatar. Donc là, la prochaine sera début mars.
Alors l'événement majeur, c'est la gamelle de Loris Baz, hein.
Alors on en parlera, oui. Donc il y a eu Loris Baz, le français, le seul français qui soit en MotoGP. Il a été éjecté de sa moto à 290 km/h.
Oh, et donc alors on a vu ça sur internet là.
Pneu explosé. Et donc il n'a rien eu, s'est relevé. Il avait une combine Alpine Star avec un airbag.
C'est incroyable parce qu'effectivement ils sont équipés maintenant les pilotes d'airbag.
Lui il était. Alors,
ouais.
C'est incroyable.
Et à 290 km/h, ouais. On voit glisser et même pas de brûlure.
Deux heures après, il était sur sa moto et il est retourné.
Oui.
C'est incroyable.
Et la cause, on en parlera peut-être tout à l'heure.
Apparemment, c'est le pneu, hein, puisqu'il a explosé, donc il était sous-gonflé. Donc ils ont modifié le règlement pour obliger à avoir des capteurs de pression maintenant sur les motos.
Très bien. Notre dernier sujet, c'est la réouverture du complexe moto qui va se faire en mars. Tout à l'heure, nous allons avoir le vice-président de l'association, Jean-Marc Van de Verende.
Eh bien, ça roule.
I am what I am. Voilà, aujourd'hui, c'est les cow-boys d'un côté, les cow-boys de Milwaukee, de Harley-Davidson. Alain, rebonjour. Voilà, très bien.
Ça va être comme ça pendant toute l'heure.
les Indiens de l'autre, un canton Edwins pour Indian, de ouais. Springfield. Voilà, on va commencer. Je sais pas si, on commence par qui ? Par Harley oui, par Alain, peut-être, Anthony, oui, peut-être, voilà. Ouais. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais tu sais que, en fait, en 1895, les familles Davidson et Harley sont de proches voisins dans le centre de Milwaukee. Est-ce que tu le savais ?
Ah bah écoute, c'est toi qui me l'as appris. J'avoue que c'est tout à fait un détail qui ne m'avait pas, qui ne m'avait pas marqué. Non, moi, j'ai plus de connaissances un peu après, à partir de.
C'est ce que j'ai bien compris.
Production de moto.
Oui, à partir de 1960.
C'est vrai que le début de l'histoire et le fait qu'ils soient voisins. Bon, je sais, évidemment,
on sait qu'il y avait. Parce que si Jean n'avait pas fait de moto, tu serais pas vendeur d'Harley Davidson.
Absolument. Mais simplement, bon, on sait bien qu'au départ, il y avait un Harley, William Harley.
Oui.
Hein, donc c'est pour ça qu'Harley est en premier, alors, d'ailleurs, sur Harley et Davidson, alors, puisque les Davidson...
Cette famille ont deux fils. Hein, leur fils William, si leur sœur Harley, et Arthur Davidson, qui sont les meilleurs amis du monde.
Voilà. Oui, tout à fait. Et qui sont voisins
à Milwaukee. Ça n'a pas changé Milwaukee, tu vois, voilà. Alors, William, 21 ans, Arthur, 20 ans, dessinateur et modeleur, donc à Milwaukee, passent leur temps libre à concevoir un moteur à combustion interne. Ça, tu devais savoir, avec un moteur français.
Oui, avec un moteur, des plans de moteur de Dion-Bouton, a priori.
De Dion-Bouton. Hein, non, mais ils avaient un moteur.
Non,
ils ont fait un test. Voilà. Ouais. C'est un moteur de 138 cm3 et à la fois suffisant, fiable et léger pour équiper une barque. Est-ce que vous saviez ça, que en fait, au début, ça a commencé comme ça, l'histoire. On dit toujours que ça a commencé avec la number one.
La
première moto que William et Arthur avaient construit. Et ben non, ça a commencé par une barque. Pourquoi ? Parce que c'est un moteur de pêche. Et ils voulaient aller le plus vite possible à leur endroit de pêche. Donc avant, c'était à la rame. Et ils se sont dit, quand ils ont vu le moteur de Dion-Bouton, ils se sont dit, pourquoi pas, on va équiper la barque d'un moteur. Voilà.
À quoi tient la naissance d'une légende, hein,
Ah, pas grand-chose.
C'est extraordinaire, bah oui.
Voilà, ils allaient pêcher sur le lac Michigan. Ça, c'est un petit peu pour faire un
Écoute,
peu...
Écoute, moi, je découvre tout ça.
Pour faire un peu rêver les auditeurs, lac Michigan, Milwaukee, Harley, Michigan, on parle de choses qu'on ne connaît pas ici, nous, en France. Hein, voilà. Donc, on continue. Hein, ils assistent à la naissance du safety bicycle. En fait, c'est un vélo, diamant. Et là, ils se disent, tiens, on pourrait motoriser ce vélo. Et donc le 20 juillet 1901, et là on y arrive, je crois que tu vas connaître l'histoire aussi, William Harley dessine les plans d'un monocylindre de 116
cm3.
Ah, dis donc, tu vois, Anthony...
Qui pourrait donner
naissance à un prototype antérieur à la fameuse numéro 1 qui daterait de 1904 en fait. Donc cette première moto ne donnant pas entière satisfaction, malgré l'aide providentiel d'un collègue de travail allemand, fournit au jeune aventurier les plans d'un moteur français de Dion-Bouton. Voilà. On revient tout le long sur le fameux schéma moteur français de Dion-Bouton.
Oui, tout à fait. Voilà. Oui.
En fait, ils se connaissaient avant avec la barque. Hein, mais les futurs fondateurs de la marque souffrent d'un manque d'expérience et William Harley s'inscrit à l'université de Madison pour devenir
ingénieur.
Ouais. Ingénieur. Ah oui, avant de construire un moteur, il faut quand même avoir un peu de compétences. Voilà. Entre-temps, les frères d'Arthur, William et Walter Davidson,
voilà, rejoignent les deux compères pour former les quatre
fondateurs. Et bricolent dans un abri de jardin. Et alors forcément, voilà. Là, ça y est, le mythe est parti. Ouais. Hein, un abri de jardin de 3 mètres sur... 4,50 m, voilà, mis à la disposition par le patriarche. Il a mis à disposition l'abri de jardin parce que avant ils bricolaient dans la cuisine. Ils ont failli faire exploser la cuisine. Et donc le papa il a dit non, on arrête et vous allez aller dans le jardin maintenant. Ouais. Comme quoi, hein, ça part comme ça de rien.
Au fond du jardin, voilà. Dans la cuisine.
Voilà. Et donc le premier modèle HD est propulsé par un mono de 405 cm3. Logés dans un cadre boucle. Et alors, eux, c'est eux qui vont vraiment poser donc le moteur et le réservoir.
Voilà, tout de suite au bon endroit.
Tout de suite au bon endroit. Ouais, c'est pas ce que va faire Indian, en fait. Hein. Là, il va y avoir un petit... Et donc, contrairement, effectivement, à Indian, le moteur et le réservoir ont déjà trouvé leur place définitive dans le châssis. Et les motos actuelles, ben voilà, ça ressemble à ça. Ouais,
ça ressemble déjà à une moto d'aujourd'hui.
Ce qui fait du futur géant de Milwaukee une sorte de...
Religion.
De religion et de précurseur. Voilà. Alors toi, Anthony, attends, parce que après j'ai...
Vous avez les mêmes sources, on dirait.
Et après, j'ai pour toi. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus?
Ouais, bah, de toute façon...
Faut que tu te rapproches du micro,
on
hein,
ne peut
Anthony.
Pas ne pas être d'accord avec l'histoire.
Voilà, ouais.
Oui, évidemment, l'histoire.
Voilà. Alors l'histoire, elle est compliquée, hein, parce que tu vas sur des sites, tu vois, même l'histoire de la barque, c'est pas tout. Il y a une autre personne qui fait pas partie de la famille, qui aide aussi les deux compères, la mise au point.
Ouais,
mais tout à l'heure, on aura un invité au téléphone qui lui va nous dire précisément ce qui s'est passé.
Il y était ?
Non, il n'y était pas.
Mais alors, je pense qu'il connaît bien.
Mais alors, je te garantis que lui, il connaît bien.
Ouais.
Do you wrong again?
Voilà, au menu de cette émission aujourd'hui, Harley Davidson, Indian, bah vous savez, si vous êtes motard, vous devez, même si vous n'êtes pas motard, vous devez savoir, vous avez, Brigitte Bardot a chanté hein, Harley Davidson, voilà. Hein.
Elle ne reconnaissait plus personne.
Approche-toi du micro.
Elle ne reconnaissait plus personne
ouais,
d'ailleurs.
Ouais, voilà. Et donc, si chez Harley, c'était des pêcheurs, au départ, des bons potes, des voisins, des bons potes, bons voisins, après, ils sont devenus donc super amis parce qu'ils ont commencé à construire donc des moteurs. Et ben, chez Indian, c'était autre chose, Anthony.
C'était des cyclistes.
Voilà. Et donc, c'était notre ami Georges.
Andy, ouais.
Indy, hein, Indy, voilà.
Champion cycliste.
Alors, attention, parce que et c'était pas un. C'était pas un cycliste de pacotille. Hein.
Ah non, non, 309
et il fait 309 courses,
courses
ouais, en 1884 et il en gagne 302. Alors de 84 à 91, il en gagne 302.
Oui.
Il doit avoir le sacré mollet, le sacré fesse.
Exactement.
C'est
il a même été.
Surtout que les vélos, ça ne devait pas être des vélos sous poids plume de l'époque.
Non, enfin, il a même couru avec ses vélos parce qu'il a développé sa propre marque de vélo.
Voilà, donc passionné de cyclisme, de vélo, de course. Donc effectivement, il va faire son vélo, ça va être le Silver. King.
Le Silver King.
Voilà, Silver King. Silver King. Voilà. Et voilà, c'est pour Indian, hein. C'est voilà. Pas pour Harley. Hein. Voilà, je répète. Dans cette future saga Indian, le second à entrer en scène est un certain Oscar
Edström.
Bien, Anthony. Voilà, et lui, né en Suède.
Né en Suède.
Ayant suivi ses parents aux USA, en voilà. Plus d'être également un cycliste.
Oui.
Lui, il pousse aussi la passion jusqu'à construire ses propres vélos de course. Comme on vous disait que c'était vraiment des passionnés de vélo.
Exactement.
Hein, voilà. Mais entre le vélo après la moto, il n'y a pas grand-chose, hein.
Non,
il suffit juste de rajouter un moteur.
Voilà.
Donc, quand les premiers stayeurs, alors c'est quoi les stayeurs en fait?
Bah, c'est les vélos avec le moteur qui est sur la partie du cadre, enfin qui est derrière sur le.
Les stayeurs, c'est pour entraîner les cyclistes de fond.
C'est ça. Oui,
voilà.
C'est pas une moto.
Ça commence. Non, alors c'est pas une moto, c'est parce que pour faire du fond, pour que le cycliste reste toujours collé. Voilà.
C'est ça.
Donc on avait ça aussi en France. D'ailleurs, regarde les premiers modèles de Marc Azani, made in Courbevoie. Alors, t'as vu, moteur de Yon-Bouton,
ouais.
Courbevoie, comme quoi les Français ne sont pas innocents là-dedans. Hein.
Ah oui,
à l'époque, il existait beaucoup de marques françaises. Hein,
alors,
moteurs,
bien sûr, ouais.
Donc, ce gars-là, Oscar, il voit ce modèle Azani, hein, donc il pense pouvoir faire mieux. Et le voilà donc lancé dans la production très artisanale de motos d'entraînement, les Stayers. Voilà.
Voilà.
Voilà. Et donc, cycliste sur piste. Et il y en a un qui voit ça. Alors attention, ils sont très loin, hein. Il y en a un qui est à New York, il y en a un qui est dans le sud des États-Unis, voilà. Entre-temps, George Indy est devenu aussi organisateur de courses et entend parler de ses stayers améliorés qui tournent à New York. Et que se passe-t-il donc, Anthony?
Ben, les deux se rencontrent et il y en a un
et
qui
voilà.
Dit à l'autre, fais-moi une moto.
Il y en a un qui dit, je t'invite, on fait une bouffe.
Dessine-moi une moto.
Voilà. Dessine-moi une moto.
Globalement, pour... synthétisé.
Et il invite où? À Springfield.
Voilà.
Voilà. Hein. C'est où au Springfield?
Dans le Massachusetts.
Parce que c'est pas les machins, hein, les animés, comment ça s'appelle les...
Non, non, c'est pas les Homer Simpson.
Homer Simpson, hein. C'est pas... Non, non, mais c'est pas une connerie, je te raconte. Hein.
Bah,
bon. Bon, alors, voilà, il invite Estron à Springfield pour qu'il lui fasse une démo. Et le résultat est des plus prometteurs, la moto s'avérant relativement sauf. Pourquoi ne pas mettre ses qualités au service des usagers de la route?
Voilà.
Tac.
Et la marque
l'idée est dit. Alors, attention, hein, parce que là, la machine est livrée en 1901 et aussitôt baptisée Indian.
Indian.
Et là, on va faire un stop sur écran, sur le Indian. Pourquoi Indian? Ça aurait pu s'appeler Oscar Indy comme Harley Davidson. Ouais.
Personne n'est capable, enfin, pour l'instant, officiellement, de dire pourquoi le nom Indian était donné.
Alors, pourquoi? Parce que peut-être que ces gens-là avaient une sensibilité, parce qu'à l'époque, on était en pleine destruction du peuple indien. Hein.
Voilà, sûrement. Ouais.
C'était le génocide, en fait.
Oui,
en gros,
effectivement.
Hein,
c'est ce qui se dit en tout cas.
En gros, les Américains, ils ont flingué les habitants originels de l'Amérique.
Ah oui, oui, non, c'est clair. Les cowboys
ont tué tout le monde. Et eux, à mon avis, ils devaient avoir une sensibilité pour ces gens, pour les Indiens. Et c'est pour ça qu'on a. Alors, ça, c'est une supposition. On suppose que c'est ça. Hein,
voilà.
Et le réservoir rouge, couleur sang.
Représente le sang des Indiens.
C'est la couleur. Pourquoi? Pour ça, ces gens auraient appelé donc Indian. Donc elle est rustique, elle s'articule autour d'un cadre diamant classique. Alors cadre diamant, Anthony, tu veux peut-être en parler? c'est le cadre, en fait, le moteur est positionné sur la poutre de la selle.
C'est, ça,
c'est
oui.
un vélo.
Contrairement, en fait. Effectivement, à Harley, qui n'avait pas, enfin, voilà. Indian n'avait pas encore positionné le moteur dans le centre du cadre,
voilà.
Comme toutes les motos sont maintenant. Quoi.
Alors,
ils étaient partis sur une technique différente.
Voilà. Donc là, on peut dire qu'Harley était un peu plus précurseur à ce niveau-là.
L'idée était un peu précurseur, disons que des deux choix, je pense que celui d'Harley.
Mais comme disait Nico tout à l'heure,
l'avenir a montré que celui d'Harley était le bon choix. Mais après, on part d'une page blanche, l'une comme l'autre marche.
On part de rien, là. On part de rien.
C'est facile vraiment aux prémices.
En 2016, c'est facile de. En 2016, c'est toujours facile de dire ah oui, mais voilà. Ah, mais si. Non, mais là, il parle de rien parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, c'est un monocylindre de 250 cm3. Le freinage se fait par rétro-pédalage. Hein, c'est encore du vélo. Hein, voilà.
Oui, c'est encore du vélo.
Et le carburant est stocké dans un réservoir. Ça s'appelle Camelback et qui est installé sur le garde-boue arrière. Ces photos, on les voit sur les sites. Mais attention, là. Il y a une super idée, c'est Jorin Indy qui a une super idée. Il a une idée de convoquer les journalistes pour une démonstration. Hein, en 1901, voilà.
Le sens du marketing.
Le sens du marketing, c'est très important pour faire vendre. Hein. Donc, une démonstration, prouesse de sa motocyclette, dont il conserve, attendez bien, ça j'ai été stupéfait, dont il conserve l'orthographe française pour l'appeler motorcycle.
Motorcycle.
Hein, ça vient de motocyclette. Alors, De Dion Bouton, Azani, le nom motocyclette, motorcycle. Comme quoi, nous, les Français, enfin, à l'époque, les Français d'époque. Hein,
mais Anthony disait, on est en Europe, on fabriquait déjà.
On leur a donné.
Et des voitures et des motos voilà. À l'époque, hein, bien sûr.
Très longtemps. Donc, il donne rendez-vous aux journalistes, donc au pied d'une colline, pour leur montrer avec quelle aisance Oscar Estron gravit cette pente jusqu'au sommet. Des photos sont prises, des articles sont publiés. L'acte de naissance, attention, l'acte de naissance de la marque est ainsi signé en juin 1901.
Exactement.
Effectivement. Et on parlait tout à l'heure de Harley Davidson, inscrit au registre du commerce en 1907.
Hein.
Donc, je suis désolé, Alain, mais là,
On
doit mettre des points.
Mais
on a dit qu'on ne mettait pas de points. Mais quand même, il y avait une petite avance quand même sur. Et il faut avouer que c'est vrai qu'Indian, pendant les premiers 20 ans, a toujours été
précurseur
des idées, la poignée tournante, et beaucoup plus productif aussi.
Plus innovateur.
Et innovateur, effectivement.
Il y a trois modèles qui sont produits en 1900.
Parce que ces deux marques, il faut savoir aussi que ces deux marques se tirer la bourre dans les compétitions.
Ah oui,
oui, oui. Il y a
un volet compète.
Qui est important. Oui.
Voilà. Et donc, Alain, je suis désolé, mais ça va faire un point pour Anthony. Mais bon, c'est un point qui compte.
Ne sois pas désolé, Jean-Michel, ce n'est pas terminé.
Mais après, on va appeler au téléphone, on va avoir un invité mystère.
Ouais.
Mais alors, lui, il est calé du feu de Dieu sur Harley Davidson et Indian.
Exactement.
I don't mind if I die out on this highway. Just put me on a flatbed headed home. Burn my body to ashes and put 'em in a Lone Star can. Throw me in that river that flows through San Antonio. Bye-bye, the world, I'm going to Texas. I know that'll be my time to go. Y'all can kiss my ass together. I'll be riding that bull at the devil's rodeo. Truck driver, it looks like you've been drinking. There's trouble brewing up ahead. Jackknife, that trailer's calling for me. And it just might be the one that kills me dead. Yeah, I don't mind if I die out on this highway. Just put me on a flatbed headed home. Burn my body to ashes, put them in a Lone Star can. Throw me in that river that flows through San Antonio. Thank you.
banker's money. So what? They can all go straight to hell. Texas, as close as I've been to heaven. Just tell my friends and tell my family I wish them well. 'Cause I don't mind if I'm down on this highway. Just put me on the flatbed headed home. Burn my body to ashes, put them in a Lone Star can. Throw me in that river that flows through San Antonio. Throw me in that river that flows through San Antonio. Throw me in that river that flows through San Antonio.
Voilà, donc spécial aujourd'hui, Harley-Davidson, Indian, retour vers le passé, et non vers le futur, Alain.
Oui, bah oui.
Voilà. Et Jean, nous avons au téléphone, alors là c'est le top du top, alors ouais. Lui, c'est lui, ouais. Vous allez voir. Voilà. Jean-Luc Gagnard, bonjour.
Oui, bonjour.
Salut Jean-Luc.
Voilà.
Ça va?
Ouais. Donc Jean-Luc, on vient de parler donc des débuts, hein, les prémices donc de ces deux marques avec les géniteurs. Donc j'ai parlé de la. Alors je rappelle aux éditeurs que tu es collectionneur de motos anciennes.
Oui. Alors depuis 40 ans maintenant.
40 ans. Hier, je me suis dit, tu dois avoir combien? 150 modèles, 200 modèles, non, de motos?
Moi, je sais pas, je compte pas.
Tu comptes pas, d'accord. Et tu as un musée, alors un musée rural de la moto, hein, on va dire rural, parce ouais. que c'est situé comme dans la campagne, hein. Donc à Montflour.
Voilà, dans la Mayenne.
En Mayenne, voilà. Avec, mais alors je conseille à tous les auditeurs d'aller faire un tour là-bas à ton musée, hein, voilà. En plus tu fais la visite et en plus à la fin de la visite on fait le débriefing sur une grande table en bois, on mange le saucisson, on boit l'alcool local, voilà. C'est super sympa. Voilà, ça c'était pour planter le personnage, hein, le décor, voilà. Maintenant donc aujourd'hui tu sais que Jean-Luc on parle donc histoire, hein, l'histoire de on retourne vers le passé, Harley Davidson Indian, et toi tu m'as dit hier, je t'ai appelé hier, donc tu m'as dit que l'histoire Harley avait commencé par une barque. Est-ce que c'est vrai? Parce que Alain Chêne, qui est Harley Davidson, a un doute.
Oui, ben, c'est-à-dire qu'au début, ça commence un peu avec une équipe de copains. Il y a Arthur Davidson, Bill Harley, aussi Emil Kruger et O. Levin Ruger.
Ah, je m'excuse. Ben voilà, je cherchais le troisième, le Kruger, voilà, qui n'était pas, pas voisin et qui fait pas partie de la famille.
Voilà. Non, tout ça, en fait, c'est une bande de copains à l'époque qui se côtoient et qui sont aussi pêcheurs, chasseurs et tout ce qu'on veut. Et bon, ils vont souvent sur le lac Michigan pour pêcher, c'est un lac extrêmement grand. Et ils se sont dit, il faudrait bien qu'on fasse un moteur pour mettre sur notre barque. Donc, l'idée est partie un peu de ça au début. Et puis, Emil Kruger, un jour, découvre un vélo à moteur de Dion Bouton. J'ai retrouvé une photo d'Emil Kruger avec ce vélo. Et ce qui leur a donné aussi l'inspiration pour fabriquer une motocyclette. C'est le début du XXe siècle où l'ère mécanique se met en route. Et donc, ils décident, toute l'équipe, là, de s'entraider et d'essayer de construire une motocyclette.
Voilà. Et en plus, tu dis que tu possèdes le premier modèle, hein, avant la numéro 1.
Oui,
dans ta collection.
J'ai un vélo à moteur de Dion Bouton.
Alors, c'est une réplique ou c'est un modèle qui a été qui est d'origine, qui a été refait ou bidouillé un peu, non?
Non, c'est un véhicule en fait d'époque. Hein, c'est le seul actuellement qu'on connaisse.
Oui, oui. C'est le seul modèle connu qui est chez toi.
Oui, je l'ai récupéré moi purement par hasard, hein, il y a une trentaine d'années. Et puis c'est un jour en fouillant dans les archives Harley, quand je me suis mis à travailler sur la marque, que j'ai découvert, j'ai dit c'est incroyable, Emil Kruger avait exactement le même vélo que le mien.
Comment tu fais, je me pose toujours la question, comment tu fais pour pouvoir récupérer des motos, oui, comme ça, enfin des trucs qui datent de siècles, un siècle là.
Ben oui, c'est-à-dire que bon, tu vois, maintenant c'est plus compliqué, mais il y a 30 ans ou même 40 ans, bon, il y avait les gens se débarrassaient beaucoup des motos. Après, il y a eu la collection, s'est mise un peu en place et tout ça. Donc c'était très abordable surtout, et on découvrait plein de choses.
Très bien, on va passer sur Indian. Parce qu'aujourd'hui, hein, je te répète, hein, voilà, c'est Indian Harley, hein, à l'origine. Oui, hein, oui. Voilà. Le premier modèle, c'est le Camelback de 1906. C'est 1901 normalement.
Ça commence en 1901. Donc, c'est George Indy et Oscar Estrom. C'est pareil, c'est George Indy, c'était un coureur cycliste, c'était quelqu'un qui était passionné par le sport. Oscar Estrom s'y intéressait aussi. Et donc ils ont eu l'occasion de courir ensemble en 1900. Et puis ils avaient un tandem motorisé. Et puis à partir de tout ça, Oscar Estrom avait été aussi un ingénieur et quelqu'un qui fabriquait des carburateurs, avait réussi à mettre au point le tandem de manière assez incroyable. Et George Indy lui a proposé de faire cette association qui est devenue Indian Springfield. Voilà.
Alors on se posait la question aussi sur le nom Indian, parce que ça aurait pu faire comme Harley Davidson, Indy Estron, et ils vont prendre le nom de Indian. Pourquoi ?
Oui, alors Indian, je pense à l'époque, peut-être qu'il y avait une sensibilité aussi par rapport aux Indiens d'Amérique, hein, qui avaient été, on va dire, exterminés malheureusement dans cette aventure-là. Et donc on disait aussi que le rouge, c'était la couleur du sang des Indiens d'Amérique, c'est un rouge très couleur sang.
D'accord. Dis, tu possèdes beaucoup de Harley et beaucoup d'Indian. Dis-nous un peu ce que tu préfères en toute simplicité.
Hein. Oui, en toute simplicité. C'est-à-dire que moi, j'aime les deux. C'est ça mon gros problème. J'ai travaillé sur les deux marques.
Mais on t'en voudra pas.
Ce n'est pas tout à fait un problème.
On t'en voudra pas, Jean-Luc. T'inquiète. On buvra quand même un petit bain à Pécancourt.
T'as épargné une grosse bagarre dans les studios. Hein. Tu sais, je te le dis là.
Alors, par contre, je pense que les Indians avaient... faut savoir qu'Indian a été le plus grand constructeur de motos au monde à partir de 1910.
Oui, justement, on parlait justement que Indian était... les premiers 10-20 ans, là, étaient quand même un peu plus...
Très productifs.
Novateurs que Harley.
Oui, ils avaient fait des motos très performantes. Et moi, j'ai restauré des Harley, des Indians de cette époque-là. Il y a plus de pièces sur une Indian. C'était encore plus travaillé, encore plus poussé.
Il y a plus de pièces sur une Indian. Ah oui. Bon, quelque part, avoir plus de pièces, c'est embêtant.
Surtout quand tu dois les remonter.
Ouais, alors, il faut avouer aussi que ces deux marques se sont tirées la bourre, hein, sur les courses. Hein, qu'il y avait. On sait que Indian a remporté le Tourist Trophy aussi.
Oui, en 1911. Ça a été un peu aussi le début de cet essor. Et donc, ils ont gagné un peu toutes les compétitions entre 1911 et puis 1920. Et puis, comme ils étaient les plus grands constructeurs, automatiquement, tout ça donnait de la... Pour un constructeur, l'important, c'était de réussir dans la compétition. Ça donnait une image de fiabilité de ses motos.
Il y avait des pilotes qui étaient vraiment attitrés à la marque. Hein. J'ai vu ça, Petrani, je crois.
Petrani,
ah oui, Petrani, oui.
Et ça, c'était Harley, ça.
C'était Harley.
Il battait les records sur le lac Salé.
Voilà, oui, il y avait aussi... Et aussi sur la plage... parce qu'avant, on pouvait faire des records sur la plage de Daytona Beach.
Ouais. Daytona. Ah oui, Daytona Beach, effectivement.
Voilà, très bien. Dis aussi, Jean-Luc, tu as le tout dernier modèle. En 1953, Indian va malheureusement fermer ses portes, disparaître. Et toi, tu as le tout dernier modèle, c'est un Roadmaster, moteur en V, de 1340 cm3.
Oui, c'est un 1340 cm3. C'est une moto qui avait la particularité d'avoir une fourche télescopique. Hein, donc ça modernisait un peu le confort. Et donc malheureusement à l'époque en 1953, Indian n'a pas pu renouveler ses marchés avec la police et l'armée. C'était quand même plus de 50% de la fabrication qui partait là-dedans. Ça a été mortel pour la marque. Quoi.
Voilà, donc on dit que c'est la Deuxième Guerre mondiale qui a fait que malheureusement Indian n'a pas su prendre le virage là. Donc pour produire des machines et que c'est Harley. Mais apparemment Harley, ils étaient bien copains avec certaines personnes au gouvernement, je crois.
Il y a peut-être eu ça, puis chez Indian, ils sont restés au moteur à soupape latérale. En 53, la Roadmaster était encore équipée d'un moteur à soupape latérale, ce qui était un peu dépassé. Harley avait moteur culbuté, et puis ils avaient aussi 4 litres d'huile dans le réservoir, qu'Indian n'avait que 2 litres. Donc l'huile avait tendance à chauffer un peu plus, et tout ça, c'était des petits critères, mais enfin, on dit que tout ça, ça a participé aussi au choix des motos. Pour l'armée.
Je pense que l'erreur technique de chez Indian, c'est parce qu'il n'y avait plus les géniteurs dans la
alors,
marque. Quoi.
Alors oui, on voit que Estrom revend ses parts en 1913. Alors c'est incroyable parce qu'on regarde en 1913, Indian fait 1,2 million de dollars
de bénéfices
et donc Estrom va revendre ses parts et Indy va le faire un peu plus tard encore, deux ou trois ans plus tard, et ce sera des banquiers qui mettront des présidents à la tête de la
qui
marque.
Qui feront des mauvais choix stratégiques.
Voilà. Alors que chez Hurley, ben, on peut dire que c'est quand même
ils étaient plus dans la continuité.
La famille.
Ça démarrait beaucoup plus lentement, c'est ce qu'on disait. Les 10 premières années, les chiffres de production montrent qu'Indian était très très loin devant. Mais ça a été, prendre son élan tranquillement, c'est le lièvre à la tortue. Quoi.
Ah, tu le vois comme ça, Alain, oui.
Bah écoute, l'histoire l'a dit. C'est pas moi qui le vois.
L'histoire l'a dit, effectivement. Bon, voilà. Donc, on va terminer. On va te voir d'ici, trois semaines, un mois, au salon de Pécancourt, Jean-Luc.
Eh oui, ça va arriver très vite. Et
dis-moi le thème que tu as choisi cette année.
Alors, cette année, ça va être les sidecars.
Ah, top.
Donc, je vais présenter des sidecars qui, à partir de 1906... jusqu'aux années 50, quoi. J'essaie toujours d'avoir des engins relativement anciens pour faire voir ce qui était le plus difficile à voir, quoi, dans le temps. Hein. C'est des engins que le temps a... Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont partis à la ferraille et qui ont été détruits. Donc là, il y aura tout un panache de beaux sidecars en bois, en alu, enfin, toutes les belles choses qui ont été faites, quoi.
Voilà, très bien. Et en fait, je reviens un peu sur les 100 ans de Harley-Davidson. Hein. Tu nous avais fait aussi au salon de Pécancourt une rétro, parce que c'est toi qui organise ce fameux stand des mamies, là. Hein. Ouais. Une rétro avec la cabane.
Ah oui, avec la cabane Harley, oui.
La cabane Harley. Avec, attention, il y avait même Arthur qui était à l'intérieur.
Ah oui, je mets toujours des mannequins.
T'avais mis un mannequin avec, et une perceuse et des machines-outils et un moteur d'origine.
Ben oui, cette cabane, en fait, j'ai tellement mis de choses et tellement... Je mets pratiquement 3 à 4 heures à la monter et à installer toute la déco qui va dedans.
Bon, très bien. Bon, écoute, on va te... Il fait très beau en Mayenne.
Ah bon, il y a du brouillard, quoi, comme...
Comme d'habitude.
Comme d'habitude en Mayenne.
En Mayenne, il fait toujours mauvais.
Très bien. Moi, Jean-Luc, t'inquiète pas, ici, il n'y a pas de brouillard, mais il pleut. Donc voilà. Bon, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on passe du bon temps à la radio. Et on te remercie d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on t'a dérangé un peu, peut-être. Voilà.
Ah ben non, ça me fait toujours plaisir de vous avoir. Et puis, ça me rapproche du Nord où j'ai. Tous les ans, comme je vais à Pécancourt, c'est un moment formidable de retrouver toute cette équipe chaleureuse. Et puis, ça me rapproche un peu de vous un peu plus tôt. Ça, c'est super.
Impeccable.
Merci. Je transmets mes amitiés à Anthony et Alain. Alors, Alain, j'aurai peut-être l'occasion de le rencontrer cette année.
Tout à fait, je serai sur le salon. Ouais.
À bientôt, Jean-Luc, à bientôt.
Okay. Salut, Jean-Luc.
Merci.
Au revoir.
I need a while.
franchir l'histoire, on va faire un grand pas dans l'histoire, c'est-à-dire on va passer de 1910 à 1960, si vous le voulez bien, parce que voilà, tout ce qui est contemporain à Indian, alors Indian, bah, c'était fini en 1960, puisque de toute façon la marque a fait son dernier modèle en 1953. Par contre, Harley, lui, a continué, mais avec beaucoup de problèmes en 1960, Alain. Et là, tu connais bien cette partie.
Oui, alors c'était une période un peu noire dans la marque, puisque Harley a fait des choix, notamment à travers le rachat d'Air Maki, de produire des motos de cylindrée plus faibles. Et ça a été, ça n'a pas été productif, ni alors, ça n'a pas pérennisé l'avenir, quoi.
Donc Harley Davidson rachète l'usine italienne, Air Maki.
Voilà, oui.
Mais on se demande pourquoi ? Pour avoir un moteur tout fait,
l'idée
125.
Comme ça, oui, il y avait 125.
Ça évite de développer un moteur, il ferait une 125.
Ouais, ils ont racheté quelqu'un qui savait faire déjà des petits moteurs.
Oui, puis c'est l'idée, c'était aussi de positionner sur un marché de cylindrée plus petite, hein, puisqu'à l'époque ils avaient que de la grosse cylindrée comme aujourd'hui. Donc 125, 250 et 350, hein, c'était les fameuses Davidson by Air Maki. Hein.
Ça élargissait la gamme et en plus Air Maki était très, très bon en compétition. Il faut se souvenir que Rougerie, par exemple, il roulait sur Air Maki, Harley Davidson. Oui. Du coup, ça fait une tribune à la marque Harley Davidson en Europe, alors qu'elle était quasi inconnue en Europe.
Voilà. Ouais, donc après 70, c'est AMF.
Bah après la période AMF, oui.
Alors là, c'est compliqué parce que là, c'est une usine de fonderie qui rachète
American Machine Foundry. Ouais.
Ça a failli disparaître hein, comme Indian.
Ah, mais complètement, oui, puisque à l'époque.
C'était chaud pour eux quand même. Et je crois même qu'ils fabriquaient des bombes pour l'armée américaine.
Oui, c'était.
Ils fabriquaient tout ce qu'ils pouvaient pour pouvoir gagner du pognon.
Oui, complètement. C'était vraiment un groupe coté en bourse, c'était un groupe industriel. Donc Harley n'était qu'une petite part de ce groupe, ça représentait très peu de choses à l'intérieur de ce groupe.
Alors après donc cette fonderie donc achète la société AMF donc Air Maki tout un mille et mélo du truc là et puis il décide d'augmenter la production de faire beaucoup de machines pour baisser les prix malheureusement ça va sur la qualité des machines ça va impacter sur la qualité des machines
très largement ouais
et ça va les rendre beaucoup moins fiables.
Oui, alors on voit bien d'ailleurs dans l'histoire qu'à partir du moment où ça a été les familles, Harley et Davidson, qui étaient à la tête de l'entreprise, dans les choix stratégiques, dans l'évolution des moteurs, dans l'évolution des technologies qu'on a trouvées sur les différents modèles au fil des années, il y a une continuité. À partir du moment où, après, avec les différentes crises qu'il y a eu sur ce siècle, la famille a perdu la main, a perdu le pouvoir sur les choix stratégiques à faire, AMF a fait des choix pour dire voilà, nous, ce qu'on veut, c'est du cash. Hein, c'est faire du volume. La qualité en retrait, on ne développe plus les moteurs. Entre le Knuck. Il y a eu vraiment à cette période-là un manque de recherche, de technologie, d'évolution, alors que d'autres marques sur les marchés moto.
C'est des financiers qui ont pris la main, pour eux, c'est un investissement, et donc il fallait un retour.
Et comme on le citait par rapport à Indian, à partir du moment où il n'y a plus l'essence de la marque, ça n'est plus le système fondateur qui s'inscrit dans le long terme, qui s'inscrit passionnellement dans le développement des produits. Si on veut faire du cash, c'est toujours très court terme. Et ça a failli coûter, d'ailleurs,
la fermeture d'Harley
d'Harley en 79-80.
L'entreprise est sur le point de faire faillite. Le nom lui-même devient... Je m'excuse, Alain, mais le nom lui-même devient l'objet de moquerie, comme à peine capable de pouvoir rouler.
Oui, écoute, c'est l'histoire.
C'est sur un
site. C'est l'histoire. Mais non, mais bien sûr. Et notre génération...
Comme quoi, tu vois.
Non, non, mais pour notre génération... La génération des motards de 50 ans aujourd'hui, Harley Davidson est toujours synonyme de tu vas être le dernier à l'apéro,
tu vas perdre tes pièces. Attention, si je te suis, je m'en prends une dans l'œil.
Regarde sous ta moto parce que tu vas voir, et quand ils s'y font, etc. Donc, on est beaucoup de notre génération sont restés à cette période-là. Alors que les choses évoluent depuis. Mais en fait, 80, ça a vraiment été un virage parce qu'il y a une personne qui est revenue dans le giron de la marque, qui est Willie G. Davidson, qui est un petit-fils des fondateurs. qui a fait partie des 13 cadres.
Alors, il y a 13 cadres qui vont racheter ça.
Il y a 13 cadres qui rachètent Harley AMF, qui rachètent le capital d'Harley AMF, qui ressortent la marque Harley du groupe AMF et qui se remettent au travail. Et tout passe par le développement du moteur Evo, le fameux 1340 Evo. 82, 83, tout à fait, puisque la fin du Chauvel qui est passé en 1340 en 80, les rallyes Chauvel, ça s'est arrêté en 80, 82 les derniers modèles. Donc 82, 83, on vient sur le moteur Evo, qui est enfin un moteur qui se fiabilise très vite, qui est efficace à la fois en performance, à la fois donc en longévité. Et en étanchéité, ce qui n'est pas rien. Il faut savoir que les moteurs d'avant, il n'y avait pas de jointe que de soupe. Enfin, il y avait des procédés technologiques qui faisaient que c'était normal que ça fuyait. Bon, là, on arrive à un moteur qui ne perd plus d'huile. Et surtout aussi, au coup de crayon de Willie Davidson, qui développe la plateforme Dyna à l'époque.
Donc ça revient dans la famille.
Complètement. Mais c'est vraiment lui qui a redessiné les modèles qu'il fallait, qui a mis en place le moteur Evo, etc. Tous les choix techniques de l'époque.
Willie Davidson, qui était le petit, l'arrière-petit-fils de.
Alors, c'est un petit-fils. Non, non, c'est un petit-fils d'un des fondateurs. Alors, je ne saurais pas dire lequel des trois, mais c'est un petit-fils d'un des fondateurs. Bon, qui est toujours, alors aujourd'hui qui a pris sa retraite, mais nous on le rencontre toujours quand on est aux États-Unis, il est toujours avec nous, lui et sa femme, Nancy. Et bon, voilà, c'est aujourd'hui la légende vivante, c'est Willie G. Davidson.
Donc actuellement, c'est quoi? C'est un président? Il y a un président à la tête d'Harley Davidson?
Aujourd'hui, il y a un président à la tête d'Harley Davidson. Harley Davidson est une société cotée en bourse.
Et lui, il est président d'honneur
Lui, il est. Oui, même plus que ça, en fait. Il n'a pas de titre. C'est tellement fort qu'il n'a pas de titre.
Lui, fait marcher le...
Lui, il représente la marque, et puis il est l'histoire de la marque. Il est l'histoire vivante de la marque, quoi. C'est le dernier représentant historique de la marque.
Voilà. Et si on revient maintenant sur Indian, qui il y a combien, j'ai pas la date, la première, le rachat. Donc oui, parce que si on revient sur Indian, en 53, il y a beaucoup de marques de motos de constructeurs qui ont racheté le nom Indian
qui ont été produits avec plus ou moins de succès, avec plus ou moins.
Oui, ils se sont rapprochés des anglaises. Il y avait des Royal Enfield qui étaient rebadgés.
Alors en 53, accumulation d'erreurs, Indian terminé, c'est perdu. Le nom est toujours là, forcément. Donc il y a des marques Royal Enfield qui donc rachète, comme vous le dites, qui rachètent Matchless, Jawa CZ, Orex, Velo 7,
exactement.
Il a passé par tout le monde, sur tout le monde ce nom. Voilà. Et après, on met même des scooters à moteur stationnaire Bridgestone Staton. Bridgestone Staton. Straton. Indian avec un sur les scooters. Voilà. Et mais par contre, évidemment, qu'est-ce qui va faire reconnaître ces fameux films? On va repasser ce fameux film, c'est Herbert, Burt Monroe bat le record du monde de vitesse sur le sol dans la catégorie des moins de 1000 cm3 avec sa scoot. On devait en parler de la scoot et des chiefs et tout ça, mais on n'a pas assez de temps.
On reviendra, on
en fera une. Voilà. Donc si on rappelle cette histoire là de Burt Monroe, parce que ça c'est vraiment c'est beau comme histoire. Je comprends qu'il y ait eu un film.
Il y a un film.
Parce que c'est vrai en fait, il a existé ce type.
C'est vrai, oui, tout à fait.
C'est une aventure humaine extraordinaire.
Avec le streamliner.
Incroyable. Parce que attention, tout ce qui est montré dans le film, il le faisait vraiment.
Il le fait. C'est un artiste.
C'est un artiste. Il refait ses pistons. Il va pisser parce qu'il a remarqué que quand il faisait pipi dans la cuve de flotte, les pistons étaient plus costauds.
Ça dépend ce qu'il avait bu avant.
Et il détient toujours son record, n'a toujours jamais été.
Au début, en fait, il est à peine à 100 km/h. Il faut qu'il passe les 200 avec sa 1000 scoot.
Avec sa scoot.
Et donc, forcément, ça fait revivre.
À la marque.
Cette marque qui a été reprise maintenant par Polaris.
Par Polaris, oui. Voilà. En 2011.
En 2011.
Qui a racheté la marque et qui a développé. Qui a mis 2 ans à développer un moteur qui est son Thunderstroke.
Voilà, très bien. Je pense qu'on va devoir se quitter là parce qu'on a autre chose aussi, plein d'infos à dire aux auditeurs aujourd'hui.
Mais on reviendra la même chose.
Mais vous pouvez rester là.
On va revenir.
La moto, c'est sur campus, c'est tous les dimanches de 11h à 12h30. Nous avons au téléphone Eric Blancart. Eric, bonjour.
Oui, bonjour. Alors,
tu organises donc dimanche prochain, le 28 février, la 23e Expo Bourse à Audruic, oui, à la salle polyvalente.
Oui, c'est bien cela. Hein. Donc, c'est pour la vente et proposer au public des pièces pour voitures et motos anciennes, ainsi que de la documentation et de la miniature.
Justement, aujourd'hui, le sujet, c'est Harley-Davidson et Indian. Est-ce qu'éventuellement, on peut trouver de la pièce Harley-Davidson ou Indian et à Audruic dimanche prochain ?
N'étant malheureusement pas un collectionneur de motocyclettes, je ne sais pas donner une réponse, mais je sais qu'il y a plusieurs marchands de pièces moto, et j'ai toujours vu mes amis motards trouver leur bonheur.
Bon, bah, très bien.
Voilà. Chance, ça va marcher.
On s'en sort bien. Voilà. Donc le thème aujourd'hui, c'est le dimanche prochain, c'est le thème de cette 23e Expo Bourse, c'est vacances à l'ancienne.
Voilà, vacances en ancienne. Alors, on a voulu au TACO, TACO Club Calaisien, mettre un peu en avant les membres qui partent tous les ans faire leurs vacances en véhicule ancien. Des gens discrets, mais ma foi, qui prennent le risque de partir et au loin.
Ah, c'est très risqué, ça, hein ?
Oui, mais bon, véhicule bien préparé, aucun souci. Hein, aucun souci. Donc, nous avons tout de même des gens qui ont participé l'année dernière, des manifestations jusqu'en Croatie, l'Angleterre, ils y vont régulièrement, l'Espagne et l'Allemagne. Donc c'est ces gens-là qui seront mis à l'honneur, à savoir que les véhicules ne seront pas des véhicules d'exception obligatoirement, hein, on n'aura pas de grands carrossiers, mais on aura des véhicules préparés avec soin, des véhicules hors d'âge, mais communs, connus par la majorité, et pour le plaisir des yeux, et puis découvrir que les vacances peuvent être autre chose que obligatoirement sur la plage au soleil.
Très bien. Donc ça se passe à la salle polyvalente, avenue Nordkerk.
Oui, alors donc c'est rue de Nordkerk, Audruic, c'est près du stade de football. Et là, nous pouvons accueillir tous les amateurs de ces manifestations.
Est-ce que c'est gratuit ? L'entrée est gratuite ?
Non, l'entrée, 3 euros. Hein, c'est pour faire vivre l'association. Hein, et c'est gratuit pour les jeunes jusque 16 ans.
Très bien. Bon, je suppose qu'il y a de quoi se restaurer et se désaltérer.
Alors, restauration sur place, hein, sans souci. Et puis, nous avons deux bars qui sont...
Ça va aller, alors. Garnis. Impeccable. Oui. Bon, alors là, je pense que ça va... Très... Dans les studios ici, tout le monde fait signe que c'est bien. Il y a deux bars. Bon, comme ça, il n'y aura pas la queue au bar. Voilà, merci. Merci, Eric, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Et bonne expo.
C'est moi qui vous remercie, puis au plaisir de vous rencontrer.
Très bien.
Merci.
Bon dimanche. Au revoir.
Merci.
Voilà, on part à Sepang. Ah, on voyage aujourd'hui. Audruic, Sepang, on revient chez Milwaukee, Springfield. On n'arrête pas, en fait. Hein.
C'est vrai, on fait le tour de la planète.
En 90 minutes, tour de la planète. Ouais, hein. Donc et pourquoi Sepang, Nico ?
Bah parce qu'en fait, la saison de MotoGP va reprendre dans un mois, hein, au Qatar.
Ça va chauffer. Hein.
Le 20 mars.
Ça va chauffer avec Lorenzo et Rossi. Hein.
Ah, on ne sait pas. Ouais, s'ils se sont quittés en mauvais termes. Alors, comment ça va retrouver.
Et j'ai vu qu'ils ne représentent plus la marque Marquez, je ne sais plus quoi, les casques ou un truc comme ça.
Oui, parce qu'en fait, Marquez en fait, avait donné tous ses produits dérivés à une société qui appartient à Rossi.
À Rossi.
Donc,
tous les produits dérivés, les achetés. Je crois que ça a laissé des traces quand même, hein, petit truc qui s'est passé l'année dernière.
Oui. Et donc, ces essais, bon, dans un mois, on est reparti pour une saison. Donc, pendant l'hiver, il y a des essais. Et il y a eu deux séries d'essais déjà. Donc, à Sepang, en Malaisie, c'était tout début février. Et puis, la semaine dernière, à Phillip Island, en Australie. Donc, on était curieux de voir comment ça allait se passer. Parce que cette année, il y a encore de grands chamboulements hein, qui risquaient de redistribuer les cartes. Les pneus, c'était Bridgestone. Maintenant, c'est Michelin. Donc, on change de fournisseur. L'électronique embarquée, elle est simplifiée et maintenant c'est la même pour tout le monde. Donc ça risquait, on imaginait que ça allait en fait resserrer les rangs.
Alors c'est la même, parce que les années précédentes, en fait, c'était une électronique qui était faite, construite par
chaque constructeur développé
par Yamaha et Honda, hein, et qui équipait ces machines. Alors que maintenant c'est fini, c'est le fournisseur officiel, c'est-à-dire
tout le monde a le même matériel, voilà. Le soft aussi, et puis avec ça ils ont le droit de l'adapter à leur mode.
Et le but c'est donc de réduire les écarts entre,
oui,
entre les marques.
On était arrivé à des trucs incroyables au niveau électronique, il y avait un GPS sur la moto, la moto était différente de virage en virage selon les circuits, c'était de la folie. Donc là, et en plus il y avait une adaptivité, c'est-à-dire que par exemple l'an dernier il y a Yannon qui avait appuyé sans le faire exprès sur la cartographie pluie, et en fait la moto au fil des tours s'est rendue compte qu'elle ne glissait pas, donc elle s'est adaptée, et à la fin de la course il avait toute sa puissance. Donc la moto était quelque part intelligente, elle était capable de s'adapter en fonction des... Donc c'est de la folie, et donc ça c'est interdit maintenant.
Ça laisse vraiment songeur à Alain, la chaîne.
Elle est intelligente.
Ah oui, écoute, là,
je sais pas si chez Harley vous êtes déjà à ce point-là.
On est loin du monde Harley. Hein.
Ouais. Le GPS nous arrête devant les troquets sympas. Ouais.
Alors, on était aussi curieux de voir comment ça allait se passer en Malaisie, parce que Ducati avait demandé à Casey Stoner, qui est double champion du monde, hein, 2007-2011, et qui s'est mis en pré-retraite, de tester la moto. Donc, on se demandait qu'est-ce qui allait se passer. Et puis, ça sera aussi intéressant de suivre l'apprentissage de Tito Rabat. C'est le seul pilote qui découvre la catégorie cette année en MotoGP. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Sepang en début février? Il faut se méfier un petit peu des temps bruts, parce que certains pilotes ont chaussé des pneus tendres pour faire des temps, tandis que d'autres sont restés en pneus durs. Donc, il faut se méfier. C'est le palmarès de Nick Patou. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Lorenzo était très en forme. Il a tourné une seconde au tour plus vite que tout le monde. Et le second, c'était Valentino Rossi, 37 ans, toujours aussi motivé. Donc c'était dire que les Yamaha ont dominé vraiment les débats. Derrière, chez Honda, ils étaient un petit peu perdus parce qu'il y avait trop de changements à la fois. Les pneus, l'électronique, et puis ils avaient un nouveau moteur moins brutal qui... Parce que l'an dernier, c'est ça leur problème, c'était le moteur qui était trop brutal, ils se sont jamais adaptés. Et Marquez et Pedrosa ont souffert, c'était pas terrible chez Honda. Chez Ducati, ils étaient un petit peu embêtés parce que fallait pas l'inviter. Stoner, qui était en retraite, qui n'a pas roulé depuis 2011 en MotoGP et en Grand Prix.
Il a faim.
Il a fait le meilleur temps des Ducati.
Merde.
Pour
un traité,
c'est
embêtant.
Un traité de luxe. Donc ils étaient un petit peu embêtés parce que du coup, ça mettait en porte-à-faux un peu leur pilote. Et on comprend que Honda avait hésité l'an dernier à accepter qu'il fasse quelques tours sur la moto pour ne pas mettre en porte-à-faux. Il a toujours le potentiel, le bougre. Et chez Suzuki, on voyait Vinales, qui découvrait la catégorie l'an dernier. Maintenant, il est devant son coéquipier et il progresse énormément. Il progresse très vite. On savait depuis le début que c'était un bon, et lui, on va le retrouver sur les podiums. Et puis le fait marquant, tu en as parlé en début d'émission, c'était le crash de Loris Baz, le seul Français en MotoGP qui a eu son pneu qui a explosé. Et à 290 km/h, il s'en est sorti indemne grâce à sa combinaison et son airbag. Et ils ont analysé les choses. C'est le pneu qui était sous-gonflé. Les Michelin demandent un petit peu plus d'air que précédemment.
Cette année, tout le monde sera équipé de Michelin.
Tout le monde sera en Michelin.
C'est Michelin.
Voilà. Il avait un pneu tendre. C'est le pilote le plus lourd du plateau. Donc il y avait beaucoup de facteurs qui faisaient qu'il était à la limite. Et donc ils sont obligés maintenant d'avoir un capteur de pression pour que ça ne se reproduise plus. Et 3 semaines plus tard, on retrouve tout ce monde-là en Australie, sur le circuit de Phillip Island. Magnifique circuit, qui a vue sur mer. Les prises de vue sont magnifiques. On s'attendait même, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'averses, alors que normalement c'est l'été là-bas, c'est l'hémisphère sud. Il y a eu pas mal d'averses, on s'apprêtait à peu près à voir la même hiérarchie s'imposer, quoi. Parce que le test de Phillip Island nous laisse vraiment très dubitatif. Parce que en Malaisie, il y avait de gros écarts. Lorenzo, il avait une seconde d'avance sur tout le monde. Ici, les temps sont très serrés, 14 pilotes dans la même seconde. Autant dire tout le monde dans un mouchoir. Meilleur temps de tous, Maverick Vinales sur la Suzuki. Donc c'est pas du tout la moto qu'on est habitué à voir aux avant-postes, ni le pilote. Bien sûr, c'est son circuit préféré. Les Suzuki ont un nouveau moteur bien plus puissant, mais c'est quand même dingue. Et c'est pas un seul tour rapide qu'il a fait. Il en a enchaîné. Et donc il a confirmé à chaque fois, il en a aligné plein. Et c'est encore plus fou parce que son coéquipier qui a la même moto, et Alex Espargaro, qui n'est pas un manche, Lui, il a fait le 17e temps. Donc, on comprend pas. Et puis, ensuite, on trouve dans un mouchoir les Honda de Marquez et Crutchlow, les Yam de Lorenzo et Rossi, et puis deux Ducati. Et qu'est-ce qu'on trouve comme Ducati ? Celle de Barbera et Loris Baz. Alors, là aussi, grosse interrogation, Barbera et Loris Baz sont dans la même écurie, c'est Avinta. Ils ont les Ducati les plus anciennes du plateau. C'est des motos de 2014. C'était les motos officielles en 2014. Donc, qui louent. Donc, c'est pas du tout l'équipe officielle. Et c'est les deux premières Ducati, c'est deux vieilles motos. Donc,
est-ce que ce serait pas le fait de changer de pneus, de marque de pneus Michelin, qui fait que justement les cadres sont plus adaptés ?
Oui, probablement. Donc, chez Ducati, les ingénieurs ils s'arrachent les cheveux parce que Stoner meilleur temps en Malaisie, et là maintenant c'est les deux vieilles motos qui sont devant. Donc, c'est terrible pour les ingénieurs. Et donc, effectivement, on a remarqué que tout le monde préfère les anciens cadres avec les nouveaux pneus. Donc il y a vraiment la majorité des pilotes qui préfèrent l'ancien châssis. Et donc Michelin il y a encore du boulot parce qu'il y a eu beaucoup de chutes. Une douzaine de pilotes qui ont chuté. D'ailleurs Petrucci, qui était le meilleur temps sous la pluie, il s'est fracturé la main en tombant sur le sec le dernier jour. Et donc il ratera les prochains essais et peut-être la première épreuve de la manche. Et puis Tito Rabat, c'est le seul donc qui vient du Moto2 qui est arrivé en MotoGP cette année, bah, il a du mal à apprendre. Hein. On sent qu'il va apprendre lentement. Il ne sera pas aux avant-postes cette année, bien qu'il était champion du monde Moto2. Hein. Donc voilà. Donc Philip Island nous laisse avec plus d'interrogations que de réponses. Et dans 15 jours, bah, on y verra peut-être plus clair avec un circuit très différent au Qatar.
Donc ce premier Grand Prix au Qatar, c'est le...
Alors c'est le 20 mars.
Le 20 mars.
Ouais. Et dans 15 jours, une série d'essais au Qatar.
Et oui, et l'année prochaine, tu sais, il paraît qu'il y aura une Harley Davidson au Grand Prix du Qatar. Alain, tu confirmes ?
Non ? Pas du tout. Quand vous parlez de vieilles motos pour des motos de 2014, allez viens Anthony, on s'en va.
Pas d'Harley ? Ah ouais, je pensais annoncer un scoop. Ah Daniel !
Oui, tout à fait.
Bonjour Daniel, de l'FBF, hein, oui. qui roule en Harley Davidson ou en Indian, peu importe. Hein, la custom culture, c'est toi ?
J'ai hélas les deux. Une travaillée Harley, effectivement, qui perd ses pièces et qui fuit, et une Indian qui est toute neuve et qui marche aussi bien. Par contre, une petite info pendant qu'on y est, je saute dessus. Nous avons l'avantage d'être accueillis par notre ami Anthony le 18 mars pour l'Assemblée Générale de la FBF. On prévoit à peu près 600 à 700 bikers de la Fédération. Les 80 délégués sont présents.
Il va les mettre où ?
T'inquiète, il sait s'organiser. Donc, on est heureux d'être accueillis dans le Nord par un concessionnaire pour une grande fête.
Bon, c'est très bien. Très bien, Daniel. Bon, allez, musique. Hein. Et après, on part sur le circuit de Lezen. C'est beaucoup moins loin que Sepang.
Mais plus aussi mieux. You know it's the angel in you.
Voilà, allez, comme on vous l'a dit avant le morceau de musique, après Sepang, on part donc ici sur le circuit, le complexe moto de Lausanne, avec le vice-président du complexe, Jean-Marc. Jean-Marc, bonjour.
Bonjour, la miche, ça va bien?
Ça va bien. Tu vas nous donner des nouvelles sur l'ouverture, l'avancement des travaux, hein, parce qu'il y a pas mal de travaux qui sont faits là actuellement sur le complexe.
Oui, effectivement, il y a eu pas mal de travaux de réalisés pendant cette période hivernale, en sachant que le but étant de remettre en sécurité maximum par rapport aux préconisations de la FFM, avec derrière de la création de nouveaux bacs à gravier, de murs de pneus ficelés et attachés ensemble.
On va dire aux auditeurs que de toute façon, on a fait une interview, on a fait un tour de circuit cette semaine. Hein. On va passer l'interview donc, dans quelques minutes. Par contre, je voudrais revenir sur les tarifs d'adhésion.
Alors, savoir aussi qu'au niveau de l'adhésion, maintenant, la région ayant changé administrativement et qu'on est sur la grande région Nord-Pas-de-Calais, faut savoir que nos amis de Picardie, d'Aisne et de l'Oise, qui font partie maintenant de la région Nord-Pas-de-Calais, bénéficieront du tarif région, puisqu'ils font partie de la région.
Et ça fait une grosse différence.
Et en sachant que les tarifs région, c'est 190 euros à l'année, et hors région, on est à 460. Donc, messieurs des départements limitrophes, n'hésitez pas à venir prendre votre région à Lausanne.
Oui, parce que le circuit, donc, on rouvre le 1er mars.
Oui.
Et puis, il faut de l'argent, parce que c'est une association et qui fonctionne avec les adhésions.
Donc, cette association, effectivement, fonctionne avec les adhésions. Et nous avons besoin du maximum de personnes pour pouvoir continuer à faire fonctionner notre fabuleux circuit.
Voilà, je te propose de faire un tour de circuit, Jean-Marc. Hein. On va avoir un peu tout ce qui a été fait. Hein. Bac à gravier, des systèmes gonflants là, sur les pilastres, des ponts. Hein.
Les Air Protect, oui.
Air Protect. Voilà, on passe l'interview et puis on se retrouve après.
Jean-Marc, on commence ce tour de circuit. Donc, première modification, là, c'est dans la première courbe quand on sort du paddock.
Oui, donc quand on sort du paddock, il y a eu le bac à gravier qui a été aménagé, beaucoup plus grand, beaucoup plus profond, et également tout un ensemble de pneus de même dimension, fixés ensemble, attachés, avec des boulons d'un côté et des sangles de l'autre côté, ce qui permet d'éviter d'avoir les pneus qui se baladent en cas de choc. Et également, au niveau de la passerelle, un système de protection Air Protect qui permet de protéger les pilastres en béton.
Très bien. Donc là, Air Protect, effectivement, c'est ce qu'on trouve sur les grands circuits. Donc, c'est des espèces de gros boudins gonflés et donc qui évitent d'aller percuter les pylônes. Donc là, on continue le tour du circuit et on passe cette parabolique. Avec un dégagement qui a été réalisé avec donc un dégagement avec du gravier.
Donc un bac à sable, un bac à gravier, on n'aura pas besoin de prendre sa pelle et son seau puisque normalement on ne devrait pas y aller, mais ça permet également de sécuriser au niveau de la parabolique, la deuxième partie de la parabolique qui se passait quand même assez vite et qui n'était pas du tout protégée. Là il y a un grand bac à gravier qui a été réalisé en sachant qu'on a entre 35 et 40 cm de profondeur avec du gravier de marne qui permet vraiment de freiner la moto et de la positionner à l'arrêt.
Très bien, donc là on prend la ligne droite, la petite ligne droite, hein, juste avant la prochaine, la courbe à droite hein, et le pif-paf. Donc là c'est pareil, un bac à gravier qui a été réalisé, donc assez profond, hein, pour, comme tu le disais, pour pouvoir ralentir les machines.
Et également, donc on arrive dedans, et également au bout, un ensemble de pneus attachés ensemble, hein, toujours dans le même système, où on voit donc quelque chose vraiment de fiabilisé et de très propre, comparé à ce qui était avant, un amoncellement de pneus sans aucune protection.
Effectivement, là nous sommes dans le pif-paf, donc deux murets de pneus, hein, donc un muret à l'entrée du pif-paf et un autre donc à la sortie. Et là on va aborder donc le racleur avec aussi un bac à gravier qui a été réalisé.
Un bac à gravier qui a été réalisé juste dans le racleur avant la sortie du. Pour revenir sur le paddock, en sachant que là on a un grand espace de dégagement, il n'y a plus de pneus qui gênent et on a vraiment un beau bac à gravier qui permet donc de se positionner en sécurité.
Voilà, donc là c'est la ligne droite, on repasse devant les paddocks. On va passer sous le pont. Alors donc, pareil, avec des systèmes donc gonflants, hein, des systèmes de protection donc qui ont été installés de chaque côté des pilastres.
Donc de chaque côté des pilastres, hein, donc les systèmes Air Protect, donc qui permet vraiment de sécuriser en cas de choc le pilote. Et juste derrière, au niveau du pylône électrique, on a également un grand bac à gravier avec tous des pneus qui ont été ficelés ensemble, ce qui permet donc d'avoir une plus grande sécurité à ce niveau-là.
Alors ça n'existait pas auparavant.
Ça, c'est vraiment une nouvelle création. Hein, donc c'est vraiment une nouvelle création qui permet donc de vraiment sécuriser cette partie juste après la passerelle, qui permet d'éviter, en cas de chute, d'avoir la moto qui partirait de l'autre côté.
Voilà, donc là on a passé la passerelle, on retourne dans le centre du circuit, donc avec le virage très lent.
Le virage très lent, où là également un bac à gravier qui a été réalisé avec des piles de pneus. Même si on va pas vite à cet endroit-là, on peut très bien avoir des chutes et ça permet également de sécuriser l'ensemble du circuit.
Bon, c'est vrai, la distance entre la piste et puis les pneus n'est pas très grande, mais effectivement c'est un endroit où on va pas très vite, donc ça devrait être suffisant. Donc voilà. Retour après sur la première courbe après les paddocks.
Après paddock, donc on arrive à l'endroit où il y avait le blocos. Donc le blocos est complètement supprimé puisqu'il a été enterré par des grosses muttes de terre qui permet d'éviter d'avoir un risque de percuter ce blocos qui était simplement planqué par des arbres. Je pense que beaucoup de personnes ne savaient pas qu'il y avait un blocos, mais il était bien présent et c'était un risque important en cas de sortie de piste de venir percuter ce blocos qui, lui, n'aurait pas bougé.
Très bien. Eh bien, écoute, Jean-Marc, je pense qu'on a fait le tour.
Donc voilà, on a fait le tour. On revient donc juste à la sortie du paddock. Hein, et on profite bien de ce beau soleil pour voir les travaux qui avancent très fortement, en sachant qu'on a pas mal de travaux qui ont été également réalisés par les bénévoles. Hein, le triage des pneus, la mise en œuvre et l'apport de ces pneus auprès d'une société qui se permet de les fixer ensemble et de réaliser les murs. Hein, qui est une société de réinsertion et qui permet donc à des gens très gentils et très sympas de travailler. Ils ont travaillé dans toutes les conditions, avec du mauvais temps, de la pluie, du vent. Et aujourd'hui, qui fait soleil, je pense que c'est un peu plus agréable.
Très bien. Et réouverture du circuit ?
Donc réouverture du circuit, prévue normalement le 29 février, donc début mars. N'hésitez pas à venir au complexe, reprendre vos adhésions parce qu'on a besoin de vous. Hein, c'est vraiment le fonctionnement des adhérents qui fait que le complexe continuera de vivre et de permettre à tous de pratiquer ce sport moto si décrié par beaucoup de personnes.
Très bien, ben Jean-Marc, on va profiter qu'il n'y ait personne sur le circuit pour en faire un deuxième tour. Et puis c'est vrai qu'avec ce beau soleil, c'est super.
Voilà, allez, on est parti, roulez jeunesse.
Voilà Jean-Marc, donc ouverture normalement, hein, 1er mars, début mars.
Ouais,
parce qu'il y a encore un peu de boulot quand même. Hein.
Bon, il y a encore un peu de boulot. Normalement, on avait annoncé 29 février, mais bon, en espérant que ça aille le plus vite possible. Hein, il y a eu un appel aux bénévoles également encore pour venir finir certains travaux et débarrasser des pneus qui sont actuellement au milieu de la piste.
Alors, cette histoire de pneus, hein, c'est boulonné, cerclé, donc, parce que ça, c'est une demande de la FFM en fait. Hein, parce que maintenant, le circuit sera homologué alors.
Ben, il est en cours d'homologation, c'est toujours pas fini.
Ouais, il est en cours,
il
devrait être homologué.
Et les demandes qui avaient été faites sur la sécurité commencent à être vraiment bien importantes. Il reste le problème de la chicane. Hein, qui sera, je pense, pour l'année prochaine, en sachant qu'on a encore une opportunité de savoir comment on va faire, si on fait une chicane, si on démonte la passerelle. Mais pour l'instant, on reste sur le projet de la chicane, en sachant quand même que derrière, c'est des gros travaux qui permettront, je pense, d'être faits l'année prochaine, pendant la période hivernale.
Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont adhéré déjà ou...
Oui, on a déjà eu des gens qui ont déjà repris leur carte annuelle. Bon, en sachant que pour l'instant, ça démarre lentement, puisque comme c'est fermé et qu'il n'y a plus personne qui roule, ça ne va pas trop commencer. Mais on appelle quand même que c'est le fonctionnement des adhérents qui permet le fonctionnement du complexe, en sachant aussi que nous allons aussi, de notre côté, essayer de modifier un peu le principe et de faire rouler des gens plus par catégorie, en sachant qu'on mettrait éventuellement une catégorie intermédiaire entre débutants et experts pour permettre à plus de personnes de se tester à la piste.
Très bien. Bah écoute, je te remercie. Jean-Marc est venu aujourd'hui dans les studios de Campus.
Il n'y a pas de souci, hein, je suis toujours présent pour vous.
Et puis ce petit tour de circuit, c'était bien sympa. Hein,
ah
hein,
oui.
C'était fait en voiture aussi.
Mais bon. Il y avait encore les camions.
Non, mais il y a beaucoup de terre encore.
Et les pelleteuses.
Il y a beaucoup de terre, voilà. Très bien, l'émission se termine. On revient avec Alain Chêne. Le cow-boy. Et puis Anthony Dwins, l'Indien. Donc Indian et Harley Davidson. Donc cette histoire, eh ben, ça continue encore. Hein. De toute façon, voilà, Harley, ben, ça n'a jamais arrêté. Indian, ça a repris. Hein. Ouais. Donc avec ce fameux modèle emblématique, Scout, la Scout. Hein, qui a été génératrice après de la Chief, tout ça. Chief et super big Chief.
Ouais,
c'est pas ça. Anthony ?
Exactement.
C'est vrai, t'as vu, j'ai bien potassé, j'ai bien potassé le truc. Ça, ouais. Voilà, Nico, ben, très bien pour le résumé des essais Herta, là, Sepang et Philippe Eisenlein.
Voilà, donc résultat des courses.
On va se faire une bientôt. Petite émission ouais. D'entrée, premier Grand Prix, Qatar, on sait pas, au mois de mars. Hein.
Le débriefing du premier Grand Prix.
Débriefing, ouais. On verra un peu ce que ça va donner. Et puis, Jean-Marc, bonne chance pour le complexe. Hein. On espère que ça marchera bien, qu'il y aura beaucoup d'adhésion.
Ben, c'est ce qu'on souhaitait également. Voilà.
Voilà. Et puis, merci Laurent pour cette partie technique et musicale.
C'est normal.
Là, c'était aujourd'hui excellent.
Eh bien, comme d'habitude, je vous dis au revoir.